Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, eh bien, ce sont les news habituelles. Ce mois de février 2026 a été riche en événements d'importance. Nous allons revenir sur quelques-uns, les 4 ans de la guerre en Ukraine, un salon de l'agriculture sans vache, ce qui est une première dans son histoire, l'Amérique qui réagit à Trump, et enfin des municipales qui se préparent pour mars, avec l'écologie en préoccupation. Il faut dire que face aux inondations historiques ou aux nombreuses victimes dues aux avalanches, les maires n'ont pu échapper au devoir de regarder en face le changement climatique et ses conséquences. Mardi 24 février, l'on a souhaité, si l'on peut utiliser ce terme, les 4 ans de guerre en Ukraine et l'entrée dans une 5e année de guerre. 3000 Ukrainiens sont aujourd'hui réfugiés à Montpellier et 400 enfants ont été scolarisés dans les écoles ou trouvent des espaces de refuge dans la ville. Avec le froid, les arrivées reprennent. Les titres de séjour à renouveler tous les 6 mois créent une instabilité pour la signature d'un bail. Pour l'instant, la ville réussit à gérer le flux. Mais selon Clara Hart, responsable de la mission internationale, si ce flux venait à s'accroître, l'arrêt de l'aide financière de l'État depuis 2 ans se ferait fortement sentir. Là-bas, les civils souffrent de la menace permanente de l'Empire russe. L'hiver est rude, il fait très froid. Alors, on invente et on se réchauffe, dans la communauté, pour faire face. À Montpellier, jusqu'au 12 mars, dans le hall de l'hôtel de ville, une très belle expo photo rend compte de cette capacité de résilience des Ukrainiens, dont les regards d'enfants nous transpercent. Prenez une heure, juste une heure, et regardez la guerre en face. Au-delà des statistiques, ici, il n'y a pas de graphique, pas de courbe, pas de débat abstrait. Il y a des enfants, des regards, des silences, des vies brisées trop tôt. Sans aucune visibilité sur une fin possible du conflit, après 1500 jours de combat, plus d'un million de morts et de blessés et 19,4% du territoire ukrainien sous autorité russe, le front tient. Même si dans les territoires occupés, la Russie mène une guerre administrative qui dépossède entrepreneurs et industriels de leurs biens. Une violence économique, moins visible que les combats, mais aux effets profonds et durables. À ce stade, malheureusement, les positions sont irréconciliables. À la veille de chaque pourparler, des frappes touchent gravement les civils. L'administration Trump souhaite avant tout une résolution rapide pour ensuite renouer des liens économiques avec les Russes. Le Kremlin veut une Ukraine à sa botte, avec le contrôle de ses choix stratégiques, la taille de son armée, le choix de son gouvernement, son adhésion ou non à l'OTAN ou à l'Union européenne, la reconnaissance de la langue russe, et bien sûr de l'Église orthodoxe russe. Mais une nouvelle vision de guerre du futur nous a été renvoyée. Au début de la guerre, l'Ukraine ne produisait que 10% de son armement face au rouleau compresseur militaire russe. Aujourd'hui, le pays produit plus de 60% de ce qu'il consomme grâce à la dronisation du conflit. Une révolution technologique accélérée. ce sont désormais les entreprises de défense des États membres de l'Union européenne qui se précipitent à Kiev pour apprendre des Ukrainiens. Car la guerre en Ukraine a bouleversé les stratégies militaires avec le passage de l'obus au drone sur une ligne de front de plus de 1200 km, de 20 à 40 km de large. Les soldats russes qui y sont poussés n'ont que quelques heures de survie devant eux. Ces derniers mois, les petits drones chargés d'explosifs tuent et blessent un millier d'hommes par jour et sont désormais responsables de 80% des pertes infligées à l'ennemi. Finalement, un petit pays réussit à faire face à un lion terrible. Le dernier exercice commun réalisé agite d'ailleurs comme jamais la blogosphère militaire. Une équipe de 10 Ukrainiens aurait mis hors de combat deux bataillons de l'OTAN en moins de 24 heures au cours d'une simulation de combat. L'omniprésence des drones armés sur le champ de bataille remet en cause la hiérarchisation et les règles de commandement classiques des armées occidentales. En dehors de l'horreur de ce conflit, pourquoi évoquer l'Ukraine dans une émission sur l'environnement ? Eh bien parce que, comme tous les conflits qui s'aggravent dans le monde, les ressources nécessaires et finies sont une cause première de la guerre. Pour l'Ukraine, il y en a eu trois : les céréales, qui nourrissaient le monde, l'énergie nucléaire et l'accès à la mer, qui s'ajoutent à la volonté de l'Empire russe de limiter l'extension européenne. Par cet hiver exceptionnellement froid à Kiev, on vit sans électricité ni chauffage. On mesure la fragilité occasionnée par les centrales électriques nucléaires. Si la plupart des réacteurs continuent de fonctionner, c'est à un niveau réduit en raison de dommages répétés aux lignes électriques et des risques liés aux attaques sur les réseaux électriques. Le risque principal est celui encouru, bien sûr, par la centrale de Zaporijjia sous contrôle des forces russes, dont tous les réacteurs sont à l'arrêt depuis 2022. Ce sont des lignes d'alimentation externe qui assurent le refroidissement des assemblages nucléaires et qui assurent la sécurité. Or, récemment, le 10 février 2026, une des deux lignes électriques externes a été perdue, laissant la centrale opérer avec une seule ligne d'alimentation. Il faut compter sur des générateurs de secours pour maintenir le refroidissement, ce qui est considéré comme un risque significatif par la sûreté nucléaire. Des experts de l'AIEA ont été déployés sur place pour surveiller la centrale et évaluer en permanence les conditions de sécurité. Ils soulignent que la dépendance des centrales ukrainiennes à des réseaux électriques fragilisés par les attaques est un risque majeur, car sans alimentation, même des systèmes de sécurité peuvent être compromis. Parlons du salon de l'agriculture. L'événement dont on parlera le plus, bien sûr, sera l'absence des vaches. Elles sont interdites de salon suite à l'épidémie de dermatose qui a décimé les troupeaux. Avec effroi, on a vu des pelleteuses empiler des cadavres de vaches, des fermiers en larmes, des stabulations vides, plongées dans un silence mortifère. Partout, des voix se sont élevées contre l'abattage ou le vaccin. Écoutons d'ailleurs Patrick Cohen, alors qu'il faisait sur France 5 il y a quelques semaines, le point sur cette situation très difficile.
DNC, dermatose nodulaire contagieuse, on parle là d'une maladie jusqu'ici inconnue en France et sous nos latitudes, mais sans doute sous l'effet du réchauffement, le virus qui prospérait en Afrique et au Maghreb a fini par franchir la Méditerranée, d'abord en Bulgarie il y a 10 ans, en Grèce, puis en Italie et en Espagne, avant d'apparaître pour la première fois en juin dernier en Savoie et Haute-Savoie. La DNC n'a pas une mortalité élevée, moins de 10% des bêtes, mais comme elle est transmise de bovin à bovin par des insectes piqueurs, mouches, stomachs ou tans, elle est extrêmement contagieuse et à ce titre classée en liste A par l'OMSA, l'OMS animal, comme étant d'une gravité particulière sur le plan socio-économique et sanitaire, à l'instar de la fièvre aphteuse ou de la peste bovine, donc une maladie à combattre et à éradiquer au plus vite.
Mais la stratégie de l'abattage généralisé est très vivement contestée.
Le troupeau entier mis à mort au premier cas de dermatose, c'est un traumatisme parce que les vaches ne sont pas des numéros ou des canards indifférenciés. Rappelons qu'on a abattu près de 20 millions de volailles en 2021-2022 pendant le pire épisode de la grippe aviaire. Ici, pour l'instant, 3300 bovins dans 76 fermes sur un cheptel total de 16 millions en France. Mais ces vaches, elles avaient un nom, une histoire. Celles et ceux qui les ont élevées, des éleveurs, ne peuvent se résoudre à voir disparaître facilement le travail d'une vie pour un individu malade, un seul individu au milieu de bêtes en apparence saines. Ce qui soulève le cœur de ces agriculteurs mobilisés en Ariège et en Haute-Garonne.
J'ai jamais senti autant de désespoir, de douleur et de colère chez les éleveurs, effectivement. Et ça aurait pu être complètement évité.
Le protocole de l'État nous fait plus peur que la maladie. Parce que quand on nous abat tout le troupeau, ben on n'a plus aucun moyen. Nous, notre but, c'est de guérir les bovins.
Cette politique de l'abattage systématique des troupeaux, et il a montré, en plus de sa cruauté, il est complètement inefficace, puisque la maladie, elle est hors de contrôle.
On arrête le massacre en vaccinant les animaux.
Interdire tous les déplacements d'animaux en France pendant au minimum 30 jours. Continuer la vaccination au plus près des foyers pour éviter qu'elle se propage.
Il faut isoler les troupeaux, il faut mettre en quarantaine, il faut faire des analyses de sang, mais on n'abat pas un troupeau parce qu'une vache réagit, c'est pas logique.
C'est pas logique, dit cet éleveur.
Oui, en apparence, c'est pas logique, mais cette maladie est particulièrement vicieuse, pas de traitement, pas de test fiable, avec une incubation sans symptômes de près d'un mois et un vaccin qui prend 45 jours pour être efficace. Le risque est donc maximum de laisser courir des animaux infectés et contaminant, c'est ce que dit le consensus scientifique et ce que soulignait le ministre de la Recherche ce matin.
Ces protocoles, ils ont été mis en place par des vétérinaires, par des scientifiques, par des épidémiologistes, par des sachants qui, quelque part, travaillent sur cette question et essayent de trouver la meilleure solution à un problème qui est quand même extraordinairement complexe. Hein. Je veux dire, et on ne va pas s'en débarrasser simplement en niant le problème. Et donc, moi, j'appelle tout le monde, évidemment, à la responsabilité et à la confiance. Confiance en les sachants, confiance en la science. C'est comme ça qu'on se sortira de cette crise.
Des arguments scientifiques contestés à la fois par des anti-sciences, les mêmes que pendant la crise Covid, par des activistes plus soucieux de leur combat contre l'État, contre l'Europe, que contre la maladie, et par les deux syndicats agricoles qui, en général, ne sont d'accord sur rien, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. En soutien de la stratégie du gouvernement, on trouve, à l'inverse, le premier syndicat agricole, la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, mais aussi, c'est important, la filière bovine française, culture viande, qui explique que les mesures en vigueur, abattage systématique, restriction des mouvements d'animaux et vaccination obligatoire autour des foyers constituent à ce stade le seul dispositif permettant de préserver le statut indemne de la France. C'est important parce que ce statut indemne, c'est celui qui nous permet d'exporter des animaux vivants. La France en est aujourd'hui, l'an dernier en tout cas, le premier exportateur mondial.
Eh bien, aujourd'hui, la situation sanitaire est stabilisée et l'immunité collective atteinte dans le Sud-Ouest. La stratégie mise en place par les pouvoirs publics, conseillée par les scientifiques et la profession vétérinaire, vient donc de remporter un succès sans appel. En abattant les troupeaux contaminés, en vaccinant les vaches, en risquant la contamination et non les autres, on a réussi à éradiquer la dermatose nodulaire en France. Et pour les mêmes éleveurs qui hurlaient au loup quand on leur parlait vaccin ou abattage, l'heure est à la prudence. Malgré d'immenses regrets, aucun d'entre eux n'a contrevenu à la décision de voir les vaches absentes du parc Expo de la Porte de Versailles. Même, on a pu assister à de véritables excuses publiques de ceux qui avaient douté de la science. En tout cas, aucun n'a pris le risque d'amener sa vache préférée. Mais le salon de l'agriculture, ce n'est pas seulement la caresse à Marguerite ou à Choupette. Cette année, il faut faire face au changement climatique et réfléchir aux transformations possibles des systèmes agricoles, les rendre plus résilients. Tous les labos, bien sûr, y sont allés de leurs conseils. Face aux modifications des cycles et aux récoltes bouleversées, des dates de semis, des floraisons, des intégrations des nécessaires économies d'eau, des récoltes résistantes à la chaleur, bref, il faut revoir le métier d'agriculteur de A à Z. Et 2026 a marqué une rupture dans l'histoire de l'agriculture héritée des Trente Glorieuses. Il ne s'agit plus seulement de produire pour nourrir le monde, mais de maintenir notre indépendance alimentaire. Il ne faudra pas seulement adapter, mais adapter dans la durée, sans certitude. Thank you. souci de biodiversité revient en force. Alain Mougrain-Dubourg et Hélène Soublé, sur France Inter, ont invité le public à réfléchir à un enjeu crucial. Quel monde voulons-nous léguer à nos enfants ? Un avenir rythmé par les pandémies, par la dégradation de la santé mentale, par l'épuisement des ressources, par des guerres qu'il promet d'entraîner, ou bien un autre ? Un autre avenir est-il possible ? Avec l'aide de la Fondation pour la biodiversité, ils ont créé une série de podcasts, Écoutez le vivant. 6 épisodes de 5 à 6 minutes qui nous remettent en face des bienfaits de la nature, celle qui soigne, qui réjouit, qui rassemble, qui écrit d'autres récits pour demain.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se pose une question simple, mais essentielle. Quel avenir voulons-nous pour nos enfants ? On entend souvent dire que la biodiversité serait un sujet secondaire ou même une lubie déconnectée des réalités économiques et sociales. Hélène Soublé, pourquoi la science montre-t-elle, au contraire, que vivre en harmonie avec le vivant est le seul pari d'avenir possible ?
Eh bien, depuis longtemps, face aux crises écologiques, notre réflexe collectif a souvent été de détourner le regard ou de miser sur des solutions technologiques censées réparer ce que nous avons abîmé. Forcer la pluie par de l'ensemencement des nuages, remplacer les pollinisateurs par des drones, imaginer des expéditions spatiales pour l'extraction de ressources sur d'autres planètes. Ces idées donnent parfois l'illusion d'une solution rapide. Elles donnent surtout le tournis. Ces réponses sont coûteuses, fragiles et ne traitent pas les causes profondes des problèmes. À l'inverse, des écosystèmes en bon état rendent à nos sociétés des services gratuits, irremplaçables et durables. Eau potable, pollinisation, fertilité des sols, régulation du climat, protection contre les catastrophes naturelles, tout cela repose sur le vivant. L'exemple des pesticides est particulièrement parlant. Longtemps présentés comme indispensables à la productivité agricole, les travaux scientifiques montrent aujourd'hui qu'ils fragilisent les sols. Ils appauvrissent la biodiversité et rendent, à long terme, les écosystèmes agricoles moins productifs et moins résilients.
Cette initiative médiatique vise à permettre l'intégration d'un des messages centraux du dernier rapport qui vient d'être publié par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, qui vous deviendra aussi familière que le GIEC. Est-ce que la biodiversité est devenue un sujet stratégique pour les entreprises ? Eh bien, cette évaluation a été préparée par 80 experts internationaux issus de 35 pays de toutes les régions du monde et de diverses disciplines. Il a nécessité 3 ans de développement, il s'appuie sur des milliers de références. Et grâce à ces recherches, petit à petit, la biodiversité se faufile dans le monde très rationnel et mathématique de l'économie afin de le modifier. Mais vous avez tous entendu, je suppose, l'histoire de Pierre Rabhi et de son arbre. Pierre Rabhi soigne un arbre qui donne des fruits abondants. La communauté vient cueillir librement. Pour elle, ses fruits sont gratuits. Personne ne prend en compte le temps, le soin et le risque que Pierre a investi. Ce qui a été apporté, travail, soin, temps, rien n'est valorisé. Et le fruit visible et consommable est perçu comme sans coût. Ainsi, on tend à donner de la valeur à ce qui est immédiatement utile ou consommable. Et on persiste à considérer comme gratuit ce dont le coût réel, effort, temps, responsabilité reste invisible. Mais les agriculteurs et les forestiers seront encore mieux que moi vous en parler. En tout cas, selon l'IPBES, c'est cette dimension qui demain peut construire une nouvelle économie plus respectueuse de ce qui est. Car la biodiversité n'est pas un coût pour l'économie. Et c'est cela qu'il va falloir comprendre. Elle en est le fondement. Sans sol vivant, sans eau de qualité, sans pollinisateurs, sans forêt, sans océan en bonne santé, nos sociétés ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Chaque jour, la nature nous rend des services colossaux. Production alimentaire, régulation du climat, purification de l'eau, protection contre les catastrophes naturelles. Des services dont la valeur est estimée à des dizaines de milliers de milliards de dollars par an, soit plus que le PIB mondial, et rien n'est valorisé par l'économie. Le 12 février 2026, Donald Trump et son administration abrogeaient la déclaration scientifique et juridique selon laquelle les gaz à effet de serre sont dangereux pour la santé et le climat. Il ne lui suffisait donc pas de sortir de l'accord de Paris. Trump avait vu avec quelle facilité son successeur avait rétabli la position américaine. Cette fois, non seulement il a renouvelé la sortie, mais il a détruit tout retour possible en abrogeant la base scientifique et juridique qui permettait à l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, de réglementer les gaz à effet de serre et certains autres polluants dangereux pour la santé et l'environnement par le Clean Air Act. Ainsi ont été supprimées, par exemple, les normes d'émissions pour voitures et camions, la suppression de l'obligation du stop-start, vous savez, cette espèce d'arrêt automatique en ville où on économise le carburant, et ont été remises en cause des régulations des polluants provenant des industries ou des centrales électriques fonctionnant aux fossiles. Mais enfin, les contre-pouvoirs américains semblent se réveiller. Des actions voient le jour contre ces décisions qualifiées de recul antiscientifique et dangereuses pour la santé. Plusieurs associations environnementales américaines ont attaqué mercredi 18 février en justice l'administration Trump. Et pour, en fait, selon ces associations, la plainte qui sera suivie parmi d'autres devrait donner lieu à une longue bataille judiciaire et pourrait probablement remonter jusqu'à la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays. Résultat, on assiste certes à la fragilisation de l'exécutif sourd et aveugle à la loi, mais quelle sera la réaction d'un Trump imprévisible et blessé ? À la veille des municipales, on parle beaucoup de réchauffement climatique et de transition écologique. Le Shift Project, l'association qui est dirigée par Jean-Marc Jancovici, a délégué à ses shifters, ses délégués locaux, d'interroger les maires sur la place de cette question dans leur engagement.
Personne ne maîtrise vraiment le climat.
Et on a une situation qui est un peu plus dégradée que les années passées.
Donc on a dit, on anticipe, on pose.
Les événements météorologiques extrêmes sont devenus une habitude pour beaucoup de maires. The Shift Project en a interrogé 3000 et 99% d'entre eux disent en avoir déjà vécu et veulent agir.
On a beaucoup d'élus qui nous disent qu'ils font de l'écologie sans la nommer et ils sont essentiellement motivés effectivement par du bon sens.
Pour ces élus, c'est devenu normal de se préoccuper des questions climatiques. Mais beaucoup se plaignent du manque de moyens humains et de l'instabilité budgétaire qui les empêche de prévoir sur le long terme.
Alors, à Montpellier, ils ont rassemblé toutes les têtes de liste. En 3 minutes, chacun devait égrener son projet d'une ville à 50 degrés, tel que nous l'a promis la courbe du réchauffement si nous n'agissons pas. Le candidat écologiste Jean-Guy Roumégas a sévèrement taxé les propositions des autres de mesures cosmétiques, se targuant de présenter la seule liste interrogeant un verdissement actuellement désordonné, alors qu'une règle prône le 3, 30, 300, habiter à 3 mètres d'un arbre, à 30 mètres d'un espace vert et à 300 mètres d'un espace naturel. Seuls, selon lui, les écologistes du printemps montpelliérain proposent de remettre en cause le modèle urbain actuel. Prenant le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui a une très mauvaise réputation, pour cette ville où déjà 80% des surfaces sont artificialisées, demandant la mise en œuvre d'une régie publique de l'énergie, dont le rôle serait non seulement les choix énergétiques, mais aussi l'aide permanente à une population mal formée à ces questions. Malheureusement, il ne suffit pas d'être bien armé idéologiquement, le réel s'impose parfois. Les politiques de transition font toujours émerger des conflictualités. Ainsi, l'usage de la voiture et des transports en commun. Tout le monde est en transition et tout le monde doit accepter de faire des efforts. Et il faut beaucoup de pédagogie. Les temps du politique et de la transition ne sont pas les mêmes. Dans un premier temps, la transition peut être un levier économique et social. L'amélioration du cadre de vie, du cadre de la ville, de la qualité de l'air, de la santé, du gain de quelques degrés peut être rapide, créer des emplois ou maintenir ceux qui existent et permettre d'adopter un récit positif de la transition au quotidien en orientant mieux les forces municipales et les choix. Mais il faut aussi une vision à long terme. transiter n'est pas toujours compatible avec le rythme électoral. On considère le rythme électoral de 6 ans à peu près contre 15 ou plus pour celui de l'innovation. Or, les citoyens sont toujours impatients. Ils vont demander d'aller plus vite. Or, l'élu, même informé et lucide, se heurte à l'étau budgétaire. On sait qu'il faut isoler les bâtiments scolaires, par exemple, démacadismiser les cours, climatiser. Mais comment faire ? Il y a à peine de quoi payer les enseignants. La restriction des aides ou du fonds vert, qui a entraîné 1,5 milliard d'euros en moins, n'aide pas. Enfin, il reste d'autres choix, indispensables mais très difficiles parce que clivants. Bâtir, par exemple. Faut-il bâtir sur une supérette, hein, sur une zone humide ? Bah, les choix ne relèvent plus seulement d'un espace de conversation citoyenne, de cette fameuse citoyenneté participative, mais des capacités et des résultats scientifiques encore baignés d'incertitudes. Une excellente dystopie a été produite par France 2, La France en 2100. Je vous conseille de tenter de la revoir en replay sur le site de France Télévisions, car elle prouve qu'avec du temps, à condition de ne pas mettre la tête dans le sable, de tenir compte des conseils scientifiques, de se méfier du technosolutionnisme trop rapide, on peut changer de mode de vie sans souffrir. Eh bien, entre ces bonnes et mauvaises nouvelles, au revoir à tous et à toutes. Bon week-end et surtout, restez informés.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.